Bonjour à tous, merci d'être venus à cette session. On espère que ça va vous plaire. On vous propose une plongée au cœur du framework 4.5. Alors, je m'appelle Bruno Boucard, je suis expert parallèle et j'appartiens à la société Finaxis.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Crozon, je suis expert technique et j'appartiens à la société MindMatcher.
Alors, j'appartiens à une société Finaxis. Cette société est spécialisée dans du conseil et dans l'architecture IT finance. On est une société à taille humaine, 160 collaborateurs, 60 millions de chiffre d'affaires. Tous les collaborateurs ont une couleur un peu finance parce que c'est un peu notre métier. Et puis, il y a aussi des experts techniques et des gens qui font des technologies Microsoft, dont je fais partie. Donc, on a la plupart des grands clients en finance.
Alors moi j'ai monté une start-up avec quatre associés. On fait un moteur de recherche innovant, documentaire, qu'on applique au métier du recrutement, qui permet de matcher des offres d'emploi et des CV de façon automatique, sans rentrer de formulaire ou de mots-clés. Donc voilà, si vous avez des problèmes de recrutement, faites appel à nous, on sera très heureux de vous aider. Alors on va commencer par décrire de quoi on va parler. Alors ça c'est toutes les nouveautés du framework 4.5 par rapport au 4. Donc, je vous rassure, on ne va pas tout couvrir. Hein. Nous, ce qu'on va faire, c'est juste ce bout-là. C'est déjà pas mal. Donc, on va faire ça en quatre grandes parties. D'abord, on va parler du garbage collector. Ensuite, on va parler du jitter. On va parler un peu du debugging. Et Bruno vous fera un chapitre sur les nouveautés en ce qui concerne la concurrence. Et puis, on terminera par questions-réponses. Alors, le garbage collector. Avant de parler de qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le garbage collector, il faut d'abord un peu expliquer comment ça marche pour être sûr que tout le monde connaisse bien les bases. Le garbage collector, ça gère la mémoire. Alors, en gros, ça fait les new et les delete. Hein. Le garbage.net est de type générationnel. Alors, les générations, c'est quoi ? Ça part d'un constat empirique qui est que plus un objet est récent, plus un objet est jeune, plus courte est sa durée de vie. Donc, c'est le contraire des humains, en fait. Hein. Et plus un objet est vieux, et plus longue est sa durée de vie. C'est le troisième constat, c'est que c'est plus facile de réclamer de la mémoire sur une petite portion de mémoire que sur une grande. Donc le GC .NET, comme tous les GC modernes, est GC rationnel et utilise trois générations. Génération 0, c'est les objets très jeunes. Génération 1, c'est les objets adolescents. Puis génération 3, c'est les objets. Génération 2, pardon, c'est les objets adultes. Alors, une petite animation, parce que là, rien ne vaut un joli dessin pour vous expliquer comment ça marche. Étape 0, le processus démarre, votre code n'est pas encore exécuté. Le garbage collector alloue de la mémoire dans le processus, alors bon, 32 mégas, ça peut être 16 ou 64 ou 128, suivant si vous êtes serveur ou workstation. Il décide d'un budget à allouer à la génération 0, c'est-à-dire qu'il va considérer que quand il y a plus d'objets que ce que peut rentrer dans la génération 0, eh bien il faut faire une collecte. Grossièrement, c'est ça son algorithme. Une fois qu'il a fait ça, il donne la main au code utilisateur. Le code utilisateur démarre, alloue des objets et remplit au fur et à mesure la génération 0. Jusqu'à ce qu'on demande l'allocation d'un objet qui dépasse le budget. Alors là, eh bien, le garbage collector il reprend la main, il déclenche une collection en quatre phases, il pose tous les threads, premier problème de performance. Il regarde les objets qui sont plus utilisés. Alors là, je vous ai mis... on voit rien du tout là. Bon, je vous ai mis la suite du code pour que vous voyez les objets B et D sont plus utilisés. Le garbage collector le sait, grâce au jitter qui a fait du boulot avant. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va considérer B et D comme unreachable, non accessible, donc c'est plus la peine de les garder en mémoire. Il va les supprimer et compacter la mémoire pour éviter la fragmentation. Enfin, il déplace la génération 0, puisque génération 0 ne contient que les objets récents. Il crée la génération 1, qui contient les objets qui ont survécu à une collection. Et puis, il alloue F, et puis il redonne la main au code utilisateur. Voilà, vous savez tout, grossièrement, de comment ça marche le garbage collector. Alors, au fur et à mesure, eh bien, il va allouer plus d'objets, et puis éventuellement allouer plus de chunks de mémoire dans le process. Au fur et à mesure, la deuxième collecte, il va créer les générations 2, ce sont les objets qui ont survécu à deux générations, etc., etc. Alors là, ce qui est important de constater, c'est que autant il peut maîtriser le budget de la génération 0 et de la génération 1, il peut décider si c'est plus ou moins grand, mais en tout cas, ça reste limité. Par contre, la génération 2 elle peut grandir énormément. potentiellement jusqu'à prendre toute la mémoire disponible dans le processus. Donc, avec cette petite animation, j'espère que vous voyez un petit peu les problèmes de performance qu'il y a dans le GC. Donc déjà, il pose tous les threads. Un seul thread fait tout le travail de compactage et de sweeping. Et évidemment, marquer, compacter la génération 2 peut être très long. Hein, si vous avez 2 Tera de mémoire et qu'il faut copier les objets pour les compacter, vous en avez pour un petit moment. Donc maintenant, on va voir les configurations du GC qui permettent d'éviter un à un ces bottlenecks. Alors, avant d'aller plus loin, je voulais juste vous donner une petite, quelque chose d'important. Avant de paramétrer le GC et de bidouiller ses paramètres, assurez-vous de bien aller sur ce lien-là, Microsoft, et d'être bien sûr de ne pas avoir fait du code qui rend le boulot du GC difficile. Faites déjà ce boulot d'assainissement, pas trop faire de new, utiliser des structs quand vous pouvez. Ensuite, si là encore vous avez des soucis, là vous pouvez attaquer la configuration. Alors, il y a 2 grands paramètres booléens qui permettent de configurer le GC. Il y a tout d'abord le mode workstation. Alors, c'est le mode classique qui considère que c'est une application desktop. Il considère que vous n'avez pas tout l'ordinateur pour vous. Et il essaye de faire en sorte de ne pas avoir trop de latence. Quand un utilisateur clique sur un bouton, il évite de passer 500 millisecondes à faire du GC. Le mode serveur, lui, il est optimisé pour les applications serveurs, donc il utilise toutes les ressources de l'ordinateur. Donc attention, une seule application en mode serveur par ordinateur. Si vous en mettez 2, elles vont se bouffer l'une l'autre pour avoir du temps pour le GC. Donc une seule. Et là, on utilise un peu plus de mémoire, mais par contre, on utilise toutes les ressources de l'ordinateur, donc surtout tous les CPU. Deuxième réglage, mode concurrent. Bon, mais en gros, il essaye de faire un boulot en parallèle de vos threads sans les poser. Mode non concurrent, par définition, il n'utilise qu'un seul thread pour faire le travail. Alors, pour que ça soit un peu plus clair, je vous ai fait des petits graphiques pour vous expliquer un petit peu la vie des threads selon les différents modes. Donc, le mode le plus simple, c'est workstation non concurrent. Donc là, j'ai fait 3 threads user qui avancent. Le thread 1 fait un new. Ça dépasse le budget de la génération 0. Le garbage collector décide de démarrer. Il pose les 2 autres threads. Et il fait tout le boulot, génération 0, 1 ou 2. Donc ça, c'est le plus simple. J'ai commencé par celui-là. C'est pas le support défaut. Support défaut, c'est plutôt celui-là. Alors là, vous voyez comment ça marche. Le garbage collector, il lance un autre thread qu'on appelle le GC background thread. Et lui, son boulot, ça va être de collecter la génération 2. Mais comme vous le voyez ici, il fait une bonne partie du boulot sans stopper les autres threads. Typiquement, il fait le marquage et une petite partie du sweeping. Et en plus, il permet à d'autres threads qui auraient besoin spot à un moment d'allouer un nouvel objet, eh bien de faire un petit travail de collecte de génération 0 et 1, court, puisque ce sont des parties de mémoire petites, pour ensuite reprendre le boulot. Alors à la fin de son travail, surtout pour la phase de compactage, il doit quand même poser tous les threads, mais il essaie de diminuer ce temps-là. Les collectes de génération 0 et 1, c'est très rapide. Hein. Sur mon Core i5, une génération 0, c'est 70 microsecondes. Donc ça devient acceptable de poser des threads pendant un temps si court. Même Bruno vous dira que s'il y en a vraiment trop, ça pose quand même des soucis.
Un petit mot là-dessus. Hein. Si vous avez une application où vous avez par exemple une 50aine de threads, le fait de poser tous les threads fait un trafic très important au niveau du système d'exploitation et peut ralentir énormément votre application pour ensuite les réhydrater et les refaire démarrer. Donc une pause avec quelques threads, ça ne coûte pas grand-chose. Une pause avec beaucoup de threads, ça peut être catastrophique.
Ah, les switches de contexte et tout ça. Ce background thread, en mode workstation, il tourne en priorité normale. Hein, donc c'est pour ça que ça marche bien de mettre plusieurs applications comme ça sur un même ordinateur. Alors le mode serveur, c'est le plus compliqué, hein, je vous rassure, après j'arrête de mettre des nouvelles lignes. Toujours les mêmes 3 threads. Et alors là, l'idée, c'est que le serveur, il va affecter un nouveau thread, donc les GC threads là-haut qu'on appelle les GC threads foreground, et un thread de background par CPU logique. Pas physique, hein, logique. Donc là, je l'ai fait sur un bipro. Et l'idée, vous voyez, c'est un peu le même schéma que tout à l'heure, sauf qu'il répartit tout le traitement qu'il y a à faire dans le garbage collector entre tous les CPU disponibles sur la machine. Tous les CPU disponibles. Et en plus, avec le 4.5, il répartit un petit peu l'état, qui fait qu'il s'assure que tous les threads aient le même boulot à faire pour histoire de finir le plus vite possible. Donc avec ce schéma, vous devriez comprendre pourquoi il ne faut pas en mettre 2 des applications comme ça sur un ordinateur. Ces threads-là, là en background et en thread et GC tout court, ils tournent en priorité real-time vis-à-vis de votre process. Donc si l'OS a à jongler entre plusieurs threads comme ça, plus que le nombre de CPU, vous allez avoir des soucis de performance et vos applications
de famine, de famine. C'est-à-dire qu'il y a des threads utilisateurs qui n'ont jamais la main.
Voilà, de famine. Et bon, bah alors là, c'est pour la complétude. Serveur, monde non concurrent. Je vois pas trop pourquoi vous utiliseriez ça. Bah, l'idée, c'est qu'il utilise plusieurs threads pour faire le boulot aussi, mais il fait génération 0, 1 ou 2 en même temps. Donc, de longues pauses, puisque la génération 2 est longue. Dernier réglage. Alors, celui-là, c'est dans le code que vous le faites. C'est la propriété latency mode du garbage collector. Bon, je ne vais pas parler de batch interactif parce qu'elles sont assez, assez simples. Par contre, ce qui est intéressant, c'est low latency et sustain low latency. Alors, vous savez, les détracteurs des garbage collectors disent souvent, bah, oui, c'est bien le garbage collector, mais le problème, c'est que quand moi, j'ai une opération critique à faire, je veux que dans 50 millisecondes, mon prix soit envoyé au marché, bah, c'est embêtant parce que si le garbage collector démarre là-dedans, bah, vous êtes foutu. Ces deux réglages-là, ça permet d'éviter ça. Low latency, vous le settez juste avant de faire une opération critique, et vous le remettez comme avant, juste après. Et il va s'assurer de ne pas faire de GC2 pendant ce moment-là. Excepté si l'OS lui dit qu'il est vraiment en rate de mémoire, et dans ce cas-là, il va quand même le faire. Mais il va éviter le plus possible. Sustain low latency, c'est un peu ça, mais sur toute la vie du process, il ne va pas faire de génération 2. En tout cas, il va vraiment éviter. Donc vous avez vraiment vous avez vraiment besoin de bien dimensionner votre RAM sur votre serveur si vous faites ça. Sinon, vous allez avoir soit des problèmes d'out of memory, soit des temps de GC2 au bout d'une heure ou deux qui vont être très longues. Alors je vous ai fait un petit arbre de décision d'après mon expérience et moi ce que je vois sur comment, dans quel ordre vous pouvez essayer les réglages. Bon, vous le verrez sur les slides. Alors, deuxième chose, bien qu'il y a de nouveau sur le framework 4.5, c'est le large object heap. Alors, ça existait déjà. Le principe, c'est que vous avez vu qu'on déplace les objets tout à l'heure. Déplacer des gros objets, ça prend beaucoup de temps. C'est même carrément sous-optimal vis-à-vis du travail du GC. Donc le GC, qu'est-ce qu'il fait? Quand on demande un gros objet, eh bien, il le met dans un tas spécial, qui s'appelle le LOH. Gros, ça veut dire supérieur à 85 kg. Et là, il ne compacte pas. Donc du coup, il ne perd pas de temps à déplacer. Par contre, vous imaginez bien que la mémoire devient fragmentée. Et là, l'algorithme pour faire un new, c'est pas juste déplacer un pointeur pour aller voir dans l'espace libre, c'est aller trouver un endroit où on trouve assez de place pour allouer l'objet. Donc c'est comme les free lists du C, c'est comme un new classique, ça prend plus de temps. Eh bien, le framework 4.5 apporte 30% d'amélioration par rapport dans la vitesse d'allocation dans le LOH. Alors 30%, c'est mes tests à moi, hein, donc j'ai mis 4 et 4.5. Alors, je ne vous fais pas la démo là, mais on est beaucoup plus rapide à allouer, donc c'est plutôt bien pour ceux qui utilisaient beaucoup ce tas-là. En général, on conseille quand même de faire du pooling hein, quand on utilise ce tas, de réutiliser les objets. Parce que faire un new, ça reste...
Un gros objet de 85K, hein, ça va vite. Hein. Vous prenez un document XML, vous êtes dedans, en général.
Un XML document, jamais faire de XML document. Un petit détail, si vous voulez allouer des objets de plus de 2 gigas, il y a des gens qui font ça, ben vous pouvez maintenant. Ok, donc maintenant, on a fini le garbage collector, on va passer au jitter. Alors pareil, rapidement le jitter... Il transforme à la volée le code IL qui est dans vos assemblies en code assembleur qui target le processeur de la machine courante. Évidemment, il fait la compilation juste une seule fois, hein, c'est du semi-interprété, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a fait la compilation en assembleur d'une fonction, bah, elle est faite et puis il ne la refait plus. Alors, a priori, c'est plutôt pas mal, mais sauf que si vous avez des contraintes de démarrage fortes, si vous voulez que votre application graphique elle soit up en 2 secondes ou alors que votre serveur démarre le plus vite possible, ben, ça pose des soucis, ce temps de JIT. Donc, il y a 3 nouvelles améliorations dans le framework 4.5. La première, c'est le multicore JIT. Alors, j'aime beaucoup celle-là. Le multicore JIT, il va enregistrer les fonctions qu'il JIT au démarrage de l'application pour ensuite les JITer à l'avance sur tous les processeurs dès le début. Alors ce qui est super là-dedans, c'est que vous avez juste ça à ajouter juste dans les premières lignes de votre main. Et ça suffit, vraiment ça marche. La première, ça décide d'un répertoire où travailler. Et la deuxième, elle a 2 rôles. La première fois, elle va regarder si le fichier startup.profile existe. S'il n'existe pas, eh bien, elle va commencer à instrumenter pour voir c'est quoi les fonctions qui sont JITées pendant la vie du process. Vous fermez votre application. La deuxième fois, elle voit que le fichier existe, elle sait quelles sont les fonctions dont il va avoir besoin, et là, il lance le JIT sur tous les CPU. Microsoft dit de 20 à 50% de gains sur les démarrages d'applications. Moi, je l'ai mis sur Paint.net, hein, vous connaissez sûrement Paint.net, c'est une grosse application graphique en .NET. On passe de 5 secondes 5 à 4 secondes de démarrage, c'est pas mal pour 2 lignes. Et ils l'ont aussi fait sur le service Bing, ASP.NET, ben, vous connaissez Bing. Eux, ils passent de 130 secondes à 65 secondes de démarrage, juste avec 2 lignes. Donc, Là, on a un bon ratio effort-résultat. Donc, je vous conseille d'essayer ça. Alors, la deuxième chose, c'est le Manage Profile Guided Optimization. L'idée, c'est que le code généré par Engine, il est beaucoup moins efficace que le code généré par le jitter. Alors, c'est pas quelque chose que les gens savent beaucoup, mais il y a des informations dont dispose le jitter lors du runtime, dont ne dispose pas Engine. Et le MPGO, il est un peu là pour remédier à ce problème. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors, vous compilez vos assemblies, vous le lancez avec MPGO, vous lancez votre exe avec MPGO, et MPGO, il va instrumenter votre exe pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, vous jouez avec votre exécutable, vous faites un scénario de test classique, vous le fermez. À ce moment-là, MPGO injecte en metadata dans votre exe les informations qu'il a pu avoir pendant le runtime, et Engine, automatiquement, va les utiliser pour faire un binaire natif plus efficace. Alors, vous allez me dire, j'imagine, pourquoi est-ce que c'est plus efficace de faire une compilation quand on est au runtime plutôt que statiquement? Alors, je vous donne, ils font une seule optimisation pour l'instant. Ça existe en C++ depuis 2003, ça, et il y en a beaucoup plus d'optimisations. Ça, c'est une première version, je pense que dans les versions 5, 6, etc., vous allez en avoir de plus en plus. Là, aujourd'hui, il en fait une qui est déjà assez importante. Alors, pour vous expliquer, là, j'ai mis l'espace mémoire du processus, d'accord? Donc, vous imaginez 0 giga en bas jusqu'à 2 giga. Ça, c'est l'espace mémoire qui va être pris par l'assemblée native lorsqu'elle est loadée dans le processus. Vous savez sûrement tous que la mémoire, d'un point de vue de l'OS, c'est divisé en pages, généralement 4K, ça peut être 32K pour des serveurs. Et une page, elle est soit read-only, dans ce cas-là, potentiellement, elle est partageable avec d'autres processus, soit elle est copy-and-write. En gros, read-only, c'est le code de vos fonctions. Hein. Généralement, on n'écrit pas du code qui va modifier le code des fonctions qui a déjà été compilé, sinon ça s'appelle du hacking, généralement. Et donc les pages qui ne sont pas en read-only mais qui sont copy-and-write, c'est les membres statiques. Hein. Ça, c'est des données qui sont destinées à être modifiées au fur et à mesure de la vie du processus. Donc imaginons maintenant, dans votre processus, vous avez une fonction 1 qui appelle très souvent fonction 2, ou inversement. Là, vous avez un problème de performance si jamais les fonctions sont écrites, le code des fonctions est écrit comme ça dans le processus. Pourquoi ? Parce que vous voulez exécuter fonction 1, vous demandez cette page à l'OS. Alors, demander une page à l'OS, c'est généralement rapide, mais si elle se trouve sur disque parce qu'il a swappé, ça peut être très long. Vous exécutez votre fonction 1, et quelques microsecondes plus tard, vous demandez l'appel de la fonction 2, vous redemandez une page à l'OS, et si vous n'avez toujours pas de chance, elle est de nouveau sur le disque, et vous vous tapez, ça peut être 100, 200 millisecondes, ça peut être très long. Donc, tout ça, pour appeler deux fonctions, c'est quand même dommage. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, lui ? MPGO, pendant que votre programme tourne, il s'en rend compte, et il se dit, mais ça serait pas bête de mettre fonction 1 et fonction 2 sur la même page. Comme ça, je demande une page à l'OS, et après, c'est fini, et j'avance. Pareil pour les données. Si la donnée 1 utilise souvent la donnée 2, en tout cas, des fonctions utilisent les deux données de façon courante, eh bien, il va les mettre ensemble. Il fait ça pour toutes les fonctions et toutes les données. Donc, l'idée, à la fin, c'est que vous vous retrouvez avec une assemblée qui a d'abord les fonctions très utilisées, ensuite les données très utilisées, et puis fonction peut utiliser, données peut utiliser. Donc, c'est plus rapide pour vous, et en plus, par ce principe de partage des pages qui sont en read-only, eh bien, ça diminue la charge mémoire sur tout votre OS. Donc ça, c'est l'optimisation qu'ils font pour l'instant, et il faut s'attendre à ce qu'ils en fassent beaucoup plus par la suite, puisqu'en C++, il y en a un paquet d'autres. Engine automatique. Alors, il y a des gens parmi vous qui ont fait des installeurs Engine pour compiler les assemblées directement sur un poste, non ? Je crois qu'ils sont tous morts parce que c'est très compliqué. C'est très compliqué, c'est quand même carrément insupportable. Maintenant, sous Windows 8, il va automatiquement rendre natives toutes les assemblées qui sont pas mal utilisées. Je suis dans les temps, ouais. Qui sont beaucoup utilisées, et si jamais il se rend compte qu'elles ne sont pas utilisées, il va les enlever. Donc il va faire une espèce de pool d'applications pré-jitées. Et comme ça, ça va grandement améliorer le démarrage de vos applications. Voilà, donc ça, non, c'est pas ça. Ça, c'était les trois grandes améliorations du jitter. Un petit mot sur le debugging. Il y a deux grandes modifications super sur le debugging. Vous pouvez rejitter des fonctions dans un process qui tourne. Donc imaginez-vous, votre process est démarré, et vous vous rendez compte qu'il y a un problème de performance. Manque de peau, vous n'avez pas mis assez de log. Hein, vous savez qu'on ne met jamais assez de log quand on a un vrai problème de performance. Mais ce que vous pouvez faire, c'est demander au profiler de rejitter à chaud des fonctions en mettant des sondes à l'intérieur. Il va vous faire des jolis graphiques pour dire où se passe le problème, et là, sans redémarrer le process, vous revenez comme avant. Donc ça revient à comme si on mettait des sondes un peu là où on voulait, en plein milieu d'un process, sans le redémarrer. Donc si vous avez un serveur de production que vous ne pouvez pas vous permettre d'arrêter souvent, ou alors en tout cas pas d'arrêter pour faire du profiling dessus, bah ça c'est super. L'autre chose, c'est qu'il est maintenant très facile d'énumérer tous les objets .NET qui sont présents dans le tas managé. Donc vous pouvez être sûr que vous allez avoir des grands, des nouveaux outils de profiling. C'est même limite facile d'écrire un profiler maintenant, presque. Ça donne envie. Voilà, moi j'ai fini. Tiens Bruno.
Merci Julien. Donc maintenant on va passer à la concurrence. Alors j'ai mis concurrence et pas parallèle, parce que souvent les deux sont mélangés. On appelle concurrence dès qu'on utilise un peu de threading. On appelle parallèle à partir du moment où on a des threads qui s'exécutent sur des corps différents. Donc là on va parler de concurrence, et dans l'espace de concurrence il peut y avoir de parallélisme. Alors, je vais parler de latence. Aujourd'hui, il est fréquent que nos applications se connectent au web, voire à un cloud. Et puis, d'un autre côté, on a des utilisateurs qui ont des tablettes, des smartphones. Et finalement, ces utilisateurs sont plutôt habitués à avoir quelque chose qui répond très, très vite. Il est bien logique que dans les applications industrielles, on nous demande d'avoir ce comportement. C'est d'ailleurs pas de latence du tout. La latence, elle provient de deux sources. Soit vous avez un traitement CPU très lourd et votre programme attend, l'IHM, soit vous faites appel à un I/O, alors soit un disque très lent, généralement c'est plutôt un accès web, et du coup, votre process attend aussi. Alors, on va essayer avec Julien de vous illustrer, dans un contexte totalement différent, c'est quoi la synchronie, c'est quoi les méthodes synchrones. Je prends mon téléphone, et en fait j'ai un problème avec ma box, des fois j'ai plus internet, donc j'appelle. Allô ?
Allô ? Tous nos collaborateurs sont actuellement indisponibles, le temps d'attente moyen est estimé à 30 minutes. Bip.
Bon là je suis très embêté, je dois partir bientôt, 30 minutes je ne sais pas quoi faire, soit je cancel l'appel. Soit je trouve un bon copain et je lui dis, tiens, prends l'appel, tu me rendras mon téléphone après, mais là, je peux pas rester. Alors, le bon copain, c'est pas sympa parce que c'est mon thread, en fait. Je crée un thread qui va tenir mon téléphone, qui va écouter, qui va rien faire. Donc, il perd son temps. Donc, c'est la solution synchrone, souvent détournée en utilisant un thread pour dégager l'IHM de cette attente, mais c'est pas forcément une belle solution. Quelques mois plus tard, je rappelle mon opérateur. Allô ?
Tous nos collaborateurs sont indisponibles. Veuillez taper votre numéro de téléphone, nous vous rappellerons dès qu'un est disponible.
Alors là, c'est top. Je rentre mon numéro de téléphone et finalement, je suis libéré de cette attente. En donnant mon numéro de téléphone, je donne la métaphore du ticket qui va être pris pour moi, qui m'identifie. L'opérateur va pouvoir me prendre plus tard et me rappeler sous forme d'une continuation, et je vais pouvoir, à ce moment-là, avoir mon entretien avec une personne. Donc, ce deuxième scénario illustre bien comment on doit traiter l'asynchronisme. L'asynchronisme ne doit pas être l'affaire d'une attente dans un thread qui ne fait rien, mais plutôt un protocole entre le service qui vous propose une méthode asynchrone et vous-même. Alors, l'objectif de faire de la synchronisation, c'est d'offrir une meilleure combinaison entre l'efficacité et la scalabilité. On ne veut pas utiliser un thread pour bloquer, ça c'est sûr. La personne qui développe ne doit pas avoir des bugs de multithreading. Elle doit avoir une forme d'abstraction qui lui offre la simplicité et la clarté de son code. Alors, si on essaie d'imaginer quelle serait l'API la plus efficace pour faire de l'asynchrone. Alors j'ai une méthode qui s'appelle getWebPage. Elle est synchrone. Je l'appelle de manière synchrone dans la méthode test. Elle est bloquante. Donc le but, c'est de transformer cette méthode pour obtenir la meilleure API pour faire de l'asynchronisme. Alors la première chose que je vais faire, j'ai l'idée de passer une action. Donc l'action, Là, elle est là pour s'exécuter une fois que la requête HTML, enfin la requête web sera exécutée. À ce moment-là, ma continuation, à savoir le console write line, sera exécutée. C'est pas mal, mais ça ne me donne pas beaucoup d'informations. Je ne sais pas si ça a bien marché, s'il y a eu des exceptions, je ne sais pas grand-chose. Donc finalement, je ne suis pas tellement satisfait de cette première API. L'autre API, j'ai l'idée d'utiliser un élément qu'on connaît déjà dans l'API TPL, c'est le type task. Alors le type task ici, il ne faut pas le voir forcément comme une tâche qui s'exécute pour faire du code CPU. C'est simplement un type pour retourner de l'information. Le type tâche, il permet d'avoir une propriété résulte, une propriété exception, et puis une méthode continue with. Donc ça, c'est déjà plus sophistiqué que mon action. Alors, je le mets en place, je suis assez content de moi. Je dis ouais, bah finalement, j'ai une API qui est plutôt sympathique. Et puis à un moment donné, j'ai besoin de faire une boucle. Alors la boucle, je me dis, là, ça ne marche pas, je reviens en synchrone. Comment faire de l'asynchrone avec cette boucle? Alors je me creuse la tête, puis j'obtiens ce truc. Alors, vous voyez, je rappelle en récursif la méthode, je crée un champ dans la classe pour maintenir l'itérateur, ça devient compliqué. Donc là, je me dis, j'ai plus le choix, il faut que je passe au framework 4.5 pour obtenir ça. Alors, le framework 4.5, j'obtiens exactement la présentation du code synchrone. La seule différence, c'est que j'ai décoré l'appel de la méthode avec le mot-clé async. Async, ça signifie que dans la méthode, je peux faire un appel await. Je ne peux pas utiliser await si je n'ai pas décoré avec async. Bon, c'est beau ce code, parce que finalement, je n'ai pas plus de lignes de code, c'est pas loin du bonheur. Mais comment ça marche? Quand je fais le get web page, en fait, le get web page, il est comme mon opérateur de tout à l'heure. Il me rend la main après avoir pris mon ticket. C'est-à-dire qu'il enregistre qui je suis et il retourne tout de suite. Donc il retourne la main à la boucle. Mais en fait, toute la partie qui suit le await est capturée pour faire une continuation. En fait, c'est la partie du code qui devra être exécutée une fois que la requête web sera terminée. Cette continuation va être prise en charge par le langage. Moi, je n'ai pas du tout à m'en occuper. Mais on va plus loin. Même la boucle est prise en charge. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en framework 2 est apparu le Yield Return. Le Yield Return proposait une solution pour justement énumérer et retourner à l'aplomb et revenir en mettant une machine à état dans le code IL qui échappait naturellement aux développeurs du programme. Ben, j'ai lâché le mot, il y a une machine à état qui est générée derrière votre dos pour faire le travail, pour maintenir l'état de l'itération, pour se souvenir des continuations à faire. Du coup, toute la boucle s'exécute très très vite puisque on enregistre toutes les continuations à faire et les continuations se dérouleront dans l'ordre de la boucle, mais plus tard. Un autre point, c'est que tout ce qui est dans les continuations reviennent dans le thread de l'aplomb. Donc si par exemple vous aviez des updates de contrôle dans une IHM, il n'y a pas de souci. Vous n'avez pas fait de cross-thread. Ça va marcher. Alors, ce qu'on vient de voir dans cet exemple d'API, c'est que les continuations et le code impératif, ça ne fait pas bon ménage. Donc c'est pour ça que les gens de la Corp ont décidé de faire async await pour vous débarrasser de cette notion de continuation qui ne répond pas à toutes les structures de contrôle. Alors là, j'ai pris une boucle for, mais j'aurais pu faire des switches, etc. Ça aurait été compliqué de maintenir le code propre. Alors, voilà, on a maintenant quelque chose qui est simple à utiliser, qui est facile à maintenir. On a moins de lignes de code à écrire, donc normalement on fait moins de bugs. La complexité cyclométrique, c'est-à-dire on n'a pas de if en pagaille qui complexifie notre code, est moindre. Alors, une première démo sur async await. Alors là, j'ai un code avec trois URL, une petite application WPF. J'ai un bouton ici qui est géré et je vais d'abord appeler une méthode qui est synchrone. Je démarre le programme et vous voyez, là, l'application ne répond pas. Il faut que j'attende la fin de tout le traitement pour obtenir le résultat. Donc vous aviez le code ici qui ressemble un peu trait pour trait à ce qu'il y avait dans la slide. Juste en dessous, j'ai une version asynchrone. J'ai simplement décoré la méthode avec async et mis un await sur la partie web client. Alors, j'ai mis un await, mais dans le framework 4.5, maintenant, la méthode downstring existe, mais avec une extension task async. À ce moment-là, elle me retourne une tâche de type string et qui est vue dans mon code comme une string normale. C'est le await qui me désenveloppe de la tâche le contenu du résultat. Donc, je remplace la méthode. Et là, je peux bouger sans souci, l'application, les URL arrivent au fur et à mesure. Et j'ai pas tellement modifié mon code. C'est quasiment le même. Alors, les fondamentaux. Alors, quel type on peut attendre sur un await? En fait, il y en a deux. C'est soit une tâche sans paramètres, soit une tâche avec paramètres. Elles sont retournées naturellement depuis les API 4.5. Vous pouviez avoir utilisé auparavant la CTP async, c'est-à-dire que c'était une DLL en plus qui permettait d'avoir la preview de async await. Mais maintenant, on a le framework et c'est dedans dans le framework. Vous pouvez aussi produire vos propres méthodes async. C'est un peu plus compliqué, mais c'est possible. Vous pouvez attendre une tâche qui s'exécute déjà. Vous pouvez attendre directement, c'est ce qu'on fait en général quand on met le await derrière l'appel de la méthode. On peut l'attendre plusieurs fois, on peut la stocker puis l'attendre ultérieurement. Voilà, globalement c'est très souple. On passe maintenant à une comparaison entre une méthode qui ne retourne rien et une méthode qui retourne une tâche. On peut faire quand même un appel await et signer la méthode async quand elle est void. Alors la grande différence entre les deux, dans un cas, on peut attendre, dans l'autre, on ne peut pas attendre. Dans le cas où il y a une tâche, on prend le contrôle du retour. Dans le cas où c'est void, on ne peut rien faire, c'est fire and forget, une fois que c'est parti, c'est parti. Dans le cas de void, le flow d'exécution se déroule sans mon contrôle. Dans le cas de la tâche, je dispose de pas mal de helpers qui viennent en fait de TPL, qui permettent d'attendre des tâches, d'attendre la première, etc. C'est plutôt pratique. Et puis en général, c'est bien au niveau des librairies d'avoir ce genre de choses. Ça permet d'avoir des organisations de code plus sophistiquées. Par contre, quand c'est void, vous pouvez surcharger des handlers d'interface graphique ou des méthodes void dans votre programme. Alors les helpers. Il y a les helpers qui permettent de céder le contrôle. Alors le task delay, c'est la version du thread sleep, mais en mode asynchrone. Le task yield, c'est un peu le do event de VB6. L'exécution en tâche de fond. Alors, en 4.5, les API TPL ont un peu évolué. On a maintenant une macro fonction qui fait task run, qui permet d'aller plus vite pour lancer une tâche. Donc c'est une fabrique. Et sur lequel on peut faire un await dessus. Comme je le disais en introduction, on peut naturellement avoir de la latence sur du code qui fait du CPU ou du code qui attend un périphérique. On peut aussi faire une composition parallèle, c'est-à-dire dire je veux attendre la première tâche qui se termine, ou je peux faire l'attente de toutes les tâches que j'ai lancées à partir d'un await. Alors sur la dernière ligne, c'est-à-dire le await task when all, si vous avez plusieurs await dans votre code, je vous invite à utiliser cette helper parce que ce sera plus efficace. Faire plusieurs await dans votre code est moins efficace que d'en faire un seul avec le task when all. Donc c'est une optimisation que vous pouvez faire. Je voudrais vous montrer un élément qui a un peu cassé les pieds à l'équipe Visual Studio quand Async Await était en développement. C'est la mise au point d'un programme qui fait de l'async await. Vous l'avez vu, je vous l'ai expliqué, tout ce qui est après le await est capturé dans une continuation. Donc ça veut dire qu'il rend la main immédiatement. Si ce comportement a lieu en mode debug, je vais devenir fou. Je ne vais pas pouvoir débugger mon code facilement. Donc là, j'ai un premier élément qui est créé. Task A, je rentre dedans. OK, il affiche qu'on est rentré dedans. Là, j'ai à nouveau un await sur B, je rentre dedans. Et là, je n'ai pas de notion de continuation, en fait. Je rentre comme si le code était totalement synchrone. Ce qui me permet, en fait, de plus facilement débugger mon code. Mais il ne faut pas s'y méprendre. C'est une collaboration entre le débugger et Async Await. Sinon, ça ne se comporterait pas comme ça. Voilà, donc, un élément important, même si vous faites de l'Async Await, vous pouvez toujours débugger facilement, et c'est compréhensible. Même si... Dans l'exécution réelle, ça ne se déroule pas exactement comme ça. Alors maintenant, on va parler de performance. C'est bien parce que dans la première partie, je vous ai dit que c'était super. Puis maintenant, je vais vous dire les défauts de Async Await. On a passé des années à produire du code synchrone. Là, cette petite méthode qui fait hello async, elle est simple, mais elle n'est pas asynchrone, elle est simplement synchrone. Et le code IL généré est extrêmement simple. Il n'y a pas de souci, il est évident. Je prends la même signature et regardez, je n'ai même pas mis de wait. J'ai simplement décoré avec async la méthode. Regardez l'IL généré. Pas mal, hein? Mais ce n'est pas tout. Là, il y a un MoveNet, c'est une machine à état. Voilà le résultat. Là, on retrouve ma chaîne de caractères et on voit comment le résultat est c'était. Donc, simplement, en ayant mis un async sur la méthode, sans faire de wait, j'ai déjà tout ça. C'est cher. Alors, c'est cher, mais on l'a compris, le résultat, au niveau du code source, c'est magnifique. Donc, il n'y a rien de gratuit dans la vie. C'est pas parce que on fait rien du côté du code, et c'est ce qu'on souhaitait, on voulait déléguer toute cette machinerie au compilateur, que le compilateur ne fait pas des choses. Bon, ce qui me fait dire que si votre traitement est inférieur à 500 millisecondes, vous le savez, ce n'est pas la peine d'utiliser Async Await. C'est peut-être pas la peine, parce qu'il y a quand même une exécution derrière qui est conséquente. Mais en général, quand on utilise Async Await, c'est largement au-dessus de du temps de 500 millisecondes. Alors, synchronisation contexte. Est-ce que tout le monde connaît cet objet, synchronisation contexte? Levez la main si quelqu'un connaît. Ouais, un bon quart. Bon, pour les autres, je vais expliquer un petit peu. Le synchronisation contexte, il est là principalement quand vous avez des interfaces graphiques, ça peut être du web aussi, et que vous êtes dans un thread de travail et que vous voulez updater des propriétés de vos contrôles graphiques. On sait tous que les contrôles graphiques ils sont créés dans un thread et on ne peut pas les mettre à jour dans un autre thread. On a une exception quand on fait ça. Donc en général, que ce soit WinForm, que ce soit WPF, que ce soit ASP.NET, on a des facilitateurs pour appeler et poster notre action de mise à jour des contrôles. Donc, c'est le rôle de synchronisation contexte. Vous pouvez aussi utiliser directement synchronisation contexte sans passer par les helpers de ces différentes librairies. Bon, Async Await utilise synchronisation contexte par défaut, excusez-moi. Donc il essaye de le trouver, là il y a l'algorithme, il prend le courant, sinon il prend celui du task scheduler. Et au niveau applicatif, ce comportement est presque toujours ce que vous voulez. Si vous faites une interface graphique, c'est bien que les continuations s'exécutent dans le thread de l'appelan. C'est ce qu'on veut. Mais alors au niveau d'une librairie, alors, on n'est pas du tout convaincu. À quoi bon faire un switch? Ça ne sert à rien. Donc, pour satisfaire finalement des usages différents, on dispose d'une méthode qui permet de dire non, pas de retour de la continuation dans le thread de l'appelant. Par défaut, il le fait. Si on met false, à ce moment-là, il poursuit son exécution dans le thread pool. Les applications, c'est principalement la performance. Si vous avez une boucle et qu'il y a beaucoup de continuations, ça fait des switches sans arrêt, ça peut être compliqué. Je vous rappelle que tout ce qui suit le await est capturé. Donc si vous faites un await au début de votre méthode et puis après vous avez plein de manipulations de variables, ça peut être coûteux. Alors prenons un code. Alors il n'est pas parfait, hein. On est d'accord. Donc on imagine on a une IHM, il y a un clic, il y a un await sur une méthode qui est orientée CPU, qui s'appelle do work async. Donc on a un await sur un task run, et puis la continuation c'est un console write line. Pas de souci. Et puis on modifie l'appel de cette méthode, le do work async, et on met un await dessus. Alors déjà, c'est pas cool. Parce que le wait, il va être bloquant, et l'IHM, finalement, va être bloqué le temps de l'exécution de ma méthode do work async. Mais c'est pire que ça, en fait. Là, mon IHM est appelé, et donc ça peut bloquer. De l'autre côté, le task run s'exécute le temps de finir son traitement. Puis, le wait capture le synchronisation contexte, et c'est là que ça prend tout son sens. Et puis quand il va être terminé, l'IHM se bloque, bien évidemment, parce que le async await a appelé le synchronisation contexte qui poste dans le thread de l'appelant l'exécution du console write line, mais l'autre est bloqué. Donc à ce moment-là, on va forcément tomber sur un problème, parce que le programme va deadlocké. On ne peut plus s'en sortir, parce que la tâche wait et l'autre cherche en même temps à insérer un contexte pour poursuivre la continuation. Donc la solution, c'est effectivement de mettre false et à ce moment-là, ça tourne, même si le programme n'est pas formidable. Je suis d'accord. Un autre élément qui est important, je l'ai dit, tout ce qui est après le await capture les variables. Mais ça veut dire quoi ça? En fait, dès la première suspension, tous les variables sont copiées dans la machine à état et sont boxées. Alors le boxing, ça vous dit quelque chose, pour revenir à la sortie du framework 2.0. On nous a dit il y a des génériques et c'est la fin du boxing sur les types valeurs. Donc il y a ce phénomène de boxing. Ça veut dire que si vous le pouvez, ou plutôt si votre projet est orienté performance, c'est pas toujours le cas, mais si votre projet est orienté performance, réfléchissez à diminuer les variables que vous utilisez après le wait. Ça peut coûter un peu cher. Voilà sur le wait. Je vais passer sur quoi de neuf dans la concurrence en 4.5. Alors, qu'est-ce qu'on a de neuf? Il n'y a pas énormément de choses en termes d'API. Il y a beaucoup de choses sur le thème de la performance. On va d'abord regarder les API. Je n'ai pas tout cité, mais j'ai pris les plus intéressants. Donc, on a une nouvelle classe qui s'appelle Concurrent Exclusive Scheduler Pair. Donc, c'est une classe qui retourne deux schedulers. On va voir comment tout à l'heure. Qui permet en fait d'implémenter le pattern lecteur-écrivain. Mais il y aura un exemple. Le token, le cancellation token source, il est apparu avec Visual Studio 2010 dans l'API TPL. Il a maintenant la possibilité d'accepter un délai, donc un timeout. On a une petite nouveauté sur le thread local values qui permet de faciliter le fait de faire une réduction. Vous avez une boucle, vous voulez sommer une variable et puis à la fin, vous voulez rationaliser toutes les variables que vous avez capturées et en faire une somme. Il y a un exemple, vous verrez comment ça marche. C'est ce qu'on appelle une réduction en jargon parallèle. Alors, il y a des nouvelles options sur la création des tâches qui ont été réclamées par des tierces parties. Et puis, si vous faites du partitioning, alors c'est quoi le partitioning? En parallèle, parfois, on a des collections dont l'item n'est pas suffisamment lourd pour occuper un cœur. À ce moment-là, on fractionne la collection par morceau et on prend tout le morceau à exécuter pour le thread, pour pouvoir occuper le CPU suffisamment. Là, on a une option maintenant où on peut dire pas de bufferisation. Alors, je vais faire la démo de l'API Current Exclusive Scheduler Pair. Alors le programme est très simple. Là, vous avez la définition d'un temps de sleep. Et puis là, on a instancié la fameuse classe. Alors la classe, elle prend en argument un scheduler. Donc soit c'est le défaut, soit c'est un scheduler personnalisé. Et elle me retourne une paire de schedulers. Un scheduler qui va être exclusif, c'est-à-dire que quand ce scheduler va jouer une tâche, elle va arrêter les tâches qui sont issues du scheduler concurrent. Ici, j'ai une boucle. Quand je tape une touche, je regarde si c'est R ou W. Si c'est R, je crée une tâche sur ce scheduler. Donc les R, c'est le concurrent. J'affiche, je dors une seconde et je sors. Je fais la même chose pour la partie writer. Mais le writer, il est sur l'exclusif. Si je tape Q, je sors. Donc, je le lance. Et je vais taper pas mal de R, et puis je vais faire un W. Et regardez ce qui s'est passé. J'ai tapé R, puis W. Mais en fait, dès que le writer est arrivé, vu qu'il est exclusif, il est passé avant les autres. Donc, ce que ça signifie dans votre organisation de votre code, si vous voulez avoir ce genre de choses où quelqu'un passe avant tout le monde et bloque tous les autres, là c'est très très simple, il suffit de passer par cette classe et il n'y a pas la peine, c'est pas la peine d'avoir des locks et des choses comme ça, tout se fait naturellement. Alors on va passer maintenant à une démo qui est orientée performance entre 4.0 et 4.5. Alors, pour faire cette démo, vous avez besoin d'une machine virtuelle. Pourquoi ? Parce que le 4.0, par rapport au 4.5, il n'y a pas tellement de différence. Le 4.5 est en fait un gros update du 4.0. Vous ne pouvez pas les avoir side by side. Soit vous avez le 4.5, vous n'avez plus le 4.0 installé. Par contre, dans Visual Studio, vous pouvez targeter 4.0. D'accord ? Mais physiquement, sur votre machine, c'est le 4.5 qui est installé. Alors ici j'ai un code avec deux helpers au début. Donc le premier helper, il me permet de mesurer l'exécution de mon action. J'affiche ici le temps et l'aps de mon exécution. Le deuxième helper, il va plaire à Julien, il permet de, par collection, de savoir combien de générations il y a eu durant le traitement, puisqu'ici on fait le delta avant-après du nombre de générations qu'il y a eu pour chacune des collections.
Collection.
Oui. on a une première tâche, on a une première méthode qui s'appelle task continuation qu'on regarde tout de suite. Donc le but là, c'est de mesurer le coût de cette continuation. Donc on l'appelle, je ne sais plus, 10 000 fois.
1 million.
1 million fois. Ensuite, on va faire l'appel d'une méthode async qui est en fait vide. Elle est là, il n'y a rien dedans. Il y a un async, il n'y a pas de wait. On va faire un wait dessus. Et là, cette fois-ci, on va l'appeler, 10 millions de fois. Et enfin, on va appeler StreamWrite, qui est la méthode qui est juste là. Et on va mesurer sur des... Donc on définit une taille de buffer de 4K. On définit le chemin où on écrit le fichier. Et on va tourner 65 000 fois sur un write. Voilà. Et là, tout ce code, je le copie. Je le mets dans... Alors non, c'est pas bon. Il n'a pas copié. Je le mets dans Visual Studio 2012. Ici, je vais exécuter. Donc là, c'est Visual Studio 2010 en framework 4.
C'est une VM de chaque côté. Hein,
c'est, ouais, pas... c'est une VM de chaque côté. Ouais. Donc là, vous remarquez des temps. Je vais faire la même chose ici. Voilà, donc vous avez une comparaison, c'est le même code, j'ai copié-collé. Là, on a 3 secondes 3, là, on a 1 seconde 4, là, on a 305 collections, et ici, on en a 0, donc il n'y a pas eu de new fait dans l'appel. Ici, ça a pris 3 secondes 2, ici, ça a pris 6 secondes. En fait, là, je me suis intéressé au parallélisme, mais en fait, c'est tout le framework qui va plus vite. Si vous passez de 4 à 4.5, pourquoi il n'y a pas tant de nouvelles API? C'est tout simplement parce que le framework a été optimisé. Ils ont passé beaucoup de temps à faire du refactoring pour obtenir des performances très améliorées. Alors, maintenant, j'ai balayé toutes les nouveautés parallèles dans Visual Studio 2012. Si vous faisiez du P-Link, P-Link avait été critiqué un petit peu parce que parfois, on mettait parallèle link et ça n'allait pas super vite. Enfin, as parallèle plutôt. Ça a été très amélioré. Bon, ça, on les a vus, ce sont des nouvelles API qui permettent de faciliter la programmation parallèle. Là, c'est le fameux thread local. Je vous disais, on fait une réduction. Ici, dans la boucle, à chaque fois, le compute retourne une valeur, on la somme, et en sortie de boucle, on obtient le résultat. Alors, pourquoi c'est efficace? C'est parce que le thread local utilise la mémoire de chaque thread. C'est une mémoire locale qui est en natif et qui est exposée en point .NET. Bon, le async await, vous l'avez vu durant la session. Il y a une librairie que j'adore, qui est TPL Dataflow, que je n'ai pas eu le temps de présenter ici. Voilà, elle est faite pour avoir de la haute performance dès que vous recevez des données en masse. Typiquement, vous faites une console de trading, vous avez beaucoup de codes qui sont mis à jour et vous voulez les pousser vers l'IHM. Utiliser les buffers de TPL Dataflow. C'est vraiment très pratique, on peut régler le nombre de threads, on peut donner la politique de consommation des données, c'est vraiment très très bien. Alors après, on a un enrichissement fonctionnel de la fenêtre Parallel Stack, on a un enrichissement fonctionnel sur Parallel Task, on a une nouvelle fenêtre qui nous permet d'observer les données sur chacun des threads. On a des temps de chargement plus rapides pour l'analyse de la consommation CPU. Et enfin, on a la capacité d'observer les comportements au niveau parallèle de nos threads avec des marqueurs qui nous rappellent les librairies qui sont utilisées. Voilà, écoute, je crois qu'on en a fini. On est prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup.